François Reinhart, votre livre est une véritable somme de 400 pages. Il n'en fallait pas moins pour déconstruire les clichés sur ce monde oriental?
Tous les Occidentaux ont l'idée que l'Espagne a été musulmane. Tous les Français sont très intéressés par la guerre d'Algérie, évidemment. Mais entre les deux, il y a une espèce de grand flou. Les croisades, ça c'est un fait qui est en général surtraité par l'historiographie occidentale. Et la chose qui est intéressante, c'est que du côté oriental, il n'y a rien. Elles ont fort peu intéressé le monde musulman de l'époque, dominé par Bagdad, avec ce qu'on appelle les Abbassides, un grand califat qui régnait à Bagdad depuis le 8e siècle. Et la chose qui préoccupait ce califat abbasside, c'est les invasions mongoles. Elles ont détruit Bagdad. Ça, c'est un événement considérable. Eh bien, dans ce livre, j'essaie toujours de renverser le point de vue et de dire on peut raconter l'histoire de l'Orient, l'histoire du monde arabo-musulman, en ayant un point de vue qui n'est pas occidentalo-centré.
Alors, vous insistez sur les luttes internes à ce vaste monde musulman, avec cette fracture qui est plus que jamais d'actualité entre sunnites et chiites.
Le premier germe de cette blessure apparaît le lendemain de la mort du prophète Mahomet, puisque le lendemain de la mort du prophète Mahomet, le clan qui est autour de lui dit, mais qu'est-ce qui doit régner après lui? Qu'est-ce qui doit être son successeur, son calife? Eh bien, il y a d'un côté les chiites qui disent, la seule vérité, c'est la vérité du sang, c'est la vérité de la descendance, et les sunnites qui disent, non, la seule vérité, c'est la vérité du consensus de la communauté. Et cette fracture-là, donc, elle apparaît dès le lendemain de la mort du prophète, et elle dure encore, puisque aujourd'hui, en Syrie, l'Iran, qui est le grand rival de l'Arabie Saoudite, eh bien, on est toujours dans cette fracture sunnite-chiite qui date donc de 632. Voilà.
Alors ce monde musulman que vous décrivez, qui s'étend, qui se développe, a su offrir au monde de très nombreuses innovations scientifiques, technologiques, on le dit souvent, et aussi la redécouverte des savants grecs.
Cette culture grecque, elle est passée dans le monde arabe. Un grand calife de Bagdad qui s'appelle Al-Mamoun. Al-Mamoun, il a fondé ce qu'on appelle la maison de la sagesse, c'est-à-dire que cet homme-là, il pensait qu'il fallait réunir tous les savoirs du monde. La tradition rapporte qu'il a décidé de faire cette maison de la sagesse parce que Aristote lui était apparu en rêve. Pourquoi ce monde arabe qui est si brillant, à partir du 12e, du 13e siècle, il commence à décliner? On a parlé des invasions mongoles, le fait que les Mongols ont ravagé tout ce qu'on appelle le Moyen-Orient aujourd'hui. C'est une chose. Et je pense que surtout, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la sclérose intellectuelle, parce que la pensée musulmane, qui était une pensée d'ouverture, de recherche, de savoir, etc., est devenue une pensée, à ce moment-là, au 13e, 14e siècle, de bigot, en quelque sorte. De gens qui disent, on est des dominants, on sera toujours des dominants, on a à se préoccuper de rien. On dit que l'électrochoc qui a servi au monde musulman à se réveiller, c'était quand Bonaparte, donc on est bien, bien plus tard, à la fin du 18e siècle, fait son expédition d'Égypte. Je pense que c'est une idée importante parce que ça nous menace, nous, occidentaux. On ne doit pas faire la même erreur qu'ont fait les Arabes au 13e, 14e siècle. Regardez le monde entier et apprenez qu'il y a eu d'autres grandes civilisations et qu'il faut les connaître.
Évidemment, vous terminez votre livre en évoquant ce qu'on a baptisé le printemps arabe, en fait, ce vent de révolte qui a soufflé sur le monde arabo-musulman. Quelle leçon y a-t-il pour l'Occident dans ces événements précisément?
Je me réjouis de l'idée de me dire, en Tunisie, en Égypte, etc., il y a des peuples qui se sont levés, il y a des jeunes qui ont dit, on a marre de ces dictateurs qui nous écrasent, on a droit aussi à la dignité, etc. J'ai une sympathie immédiate pour ça et je continue à croire que cette lutte n'est pas perdue, que cette lutte va continuer. Et l'autre chose, c'est que je pense que l'Occident a fait beaucoup de mal dans l'histoire en colonisant, en dominant le monde, etc. Il faut qu'il se calme avec ça, il faut que l'Occident arrête de croire qu'il a la leçon pour tout le monde et laissons les peuples faire leur histoire comme ils entendent la faire.
Alors évidemment, rien n'est jamais noir ou blanc. Au sein même du monde musulman, l'obscurantisme tel qu'il est empêche également les sociétés d'avancer. Vous évoquez dans le livre la naissance du wahhabisme.
Alors effectivement, le wahhabisme, c'est donc une petite tendance qui naît au milieu du 18e siècle dans les sables d'Arabie avec un prédicateur, s'appelle Abdel Wahhab, qui est très rigoriste et qui va réussir à faire alliance avec un chef de tribu qui s'appelle Ibn Saoud. On est au 18e siècle et cette alliance dure toujours parce que l'Arabie Saoudite, c'est toujours un pays qui est appuyé sur l'islam le plus rigoriste. Et dans ce livre, j'essaie de montrer que comme toutes les religions au monde, comme toutes les civilisations au monde, il y a une face noire et une face claire et que l'islam a toujours été en tension entre des gens qui sont du côté de la fermeture, comme à mon avis le sont les wahhabites, et des gens qui sont du côté de l'ouverture, comme il y a plein de musulmans qui le sont. Dans l'islam, il y a la mosquée des Omeyyades de Damas, et puis malheureusement, il y a des islamistes barbus fermés, etc., qui pensent que la religion doit se prêcher avec une kalachnikov.
Merci beaucoup, François Reinhart.